Africa Radio, BBC Afrique, présenté par Francis Laloupo. Le débat.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Merci de votre fidélité, ma collègue Liliane Niacha, toujours en vacances. Hein. Elle nous a promis en tout cas d'être de retour la semaine prochaine et on s'en réjouit. Au sommaire de cette édition, le Togo, au lendemain de la présidentielle du 22 février dernier, présidentielle qui s'est soldée dès le premier tour par la victoire proclamée par la commission électorale du président sortant, Faure Gnassingbé, pour un quatrième mandat, selon des résultats provisoires, des résultats contestés par le candidat Abiyomi Kodjo, qui affirme avoir remporté le scrutin. À quoi ressemblent donc les lendemains de cette présidentielle au Togo et quels en sont les enseignements? C'est la question que nous poserons à nos invités. Autre actualité, la Guinée-Bissau, où l'un des candidats à la présidentielle de décembre dernier, Oumarou Sissoko Embalo, a organisé ce jeudi une cérémonie singulière, celle de son investiture à la fonction présidentielle, sans attendre le règlement du contentieux post-électoral en cours depuis les lendemains de la proclamation des résultats par la Commission nationale des élections. Quelles seront les conséquences donc de cet événement inédit? Nous en parlerons dans cette édition avec nos invités. Enfin, la lutte contre l'épidémie du nouveau coronavirus, devenue une priorité mondiale, alors que le Nigeria a enregistré cette semaine un premier cas de contamination sur son territoire. Et après l'Égypte et l'Algérie d'ailleurs, quel est l'état de la mobilisation contre cette menace en Afrique? Nous en parlerons également avec nos invités. Voilà donc pour le sommaire. Notre grand témoin invité dans cette édition, au téléphone depuis Lomé, Célestin Kokouvi Agbogan, président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, la LTDH. Célestin Kokouvi Agbogan, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre de la Ligue togolaise des droits de l'homme depuis 2007. Et vous en avez été successivement le secrétaire général, le vice-président, avant d'en être aujourd'hui le président. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et un confrère invité dans cette édition, en studio à Dakar, Yaya Baldé. Yaya Baldé, bonjour.
Bonjour, monsieur Francis.
Yaya Baldé, journaliste et écrivain guinéen. Vous êtes l'auteur de Une République en quête de citoyens, également co-auteur d'un ouvrage collectif intitulé La Guinée que nous voulons, une contribution citoyenne au débat public national. Les deux ouvrages sont aux éditions Edilivres. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Premier sujet, le lendemain de la présidentielle au Togo, donc, c'est dans un délai record, hein, à peine 24 heures. Après la tenue du scrutin que la commission électorale indépendante a livré, les résultats du premier tour de la présidentielle du 22 février dernier, le scrutin à deux tours aura donc été conclu dans le premier tour avec la victoire proclamée du président sortant Faure Gnassingbé, crédité de 72,36% des suffrages exprimés, devant le candidat Abiyomi Kodjo, arrivé en seconde position avec 18,37% des voix. Ce dernier, qui s'était autoproclamé président élu avant même la proclamation des résultats de la commission électorale, a introduit un recours en contestation auprès de la Cour constitutionnelle, soutenu par l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Fanoko Podjo. Le camp d'Abiyomi Kodjo avait projeté une manifestation ce vendredi, au moment où nous enregistrons donc à Lomé, une manifestation interdite par les autorités. Célestin Kokouvi Agbogan, quelle analyse faites-vous du climat général qui a prévalu pendant ce scrutin? Quel a été le regard de la LTDH sur cette élection?
Oui, je vous remercie pour l'opportunité que vous avez bien voulu nous offrir pour participer à ce débat. Et je voudrais d'abord préciser que la Ligue togolaise des droits de l'homme a été accréditée, abonnée du fonds par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, pour couvrir, observer le scrutin aussi bien avant, pendant et après le processus électoral. Donc nous avons été présents sur le terrain et nous avons déployé 89 observateurs et qui était à la tête d'une équipe. Cet 89 était à la tête d'une équipe d'au moins 5 autres observateurs et qui ont été répartis sur toutes les parties du territoire. Et nous avons commencé par observer depuis la période des campagnes électorales. Et nous avons constaté qu'il y avait une inégalité ou une injustice en ce qui concerne les moyens qui sont déployés sur le terrain. Parce que, tout d'abord, le pouvoir, le parti au pouvoir, qui avait mis en branle tout l'arsenal administratif et avec les moyens de l'État. Et vous allez constater que les chefs des services et des entreprises, les grandes entreprises, les grandes sociétés de l'État sont partis en campagne. Vous allez même dans certains bureaux, on vous dit pratiquement les responsables, tous ceux qui doivent rendre un service public aux citoyens, ont vidé leur bureau. Et puis, le comble, c'est qu'il y a une aide publique que l'État doit accorder aux citoyens et qui relève de la loi qui a prévue et d'un décret d'exécution qui a été pris en conseil de ministre par le chef de l'État. Malheureusement, cette aide-là qui devait servir aux candidats à faire les campagnes électorales n'a jamais été versée jusqu'à l'heure où je vous parle, aux candidats. Ce qui voudrait dire qu'on a pris toutes les dispositions pour nuire, ou du moins pour ruiner financièrement, ou du moins pour limiter leur champ d'action en ce qui concerne la campagne électorale et même le scrutin où ils doivent déployer dans tous les bureaux de vote des délégués. Donc, c'est ce qui s'est passé avant le scrutin.
Avant le scrutin. Alors, est-ce que tout cela, tout ce que vous décrivez, pendant le scrutin alors, parce que l'opposition parle désormais donc de fraude massive, de bourrage d'urnes, etc. Alors, qu'en dites-vous, qu'avez-vous observé pendant le scrutin?
Justement, pendant le scrutin, je crois que quand l'opposition parle de fraude massive, je crois que, comme j'ai dit, nous avons déployé nos observateurs sur le terrain. Et il y a plusieurs de ces cas qui nous sont revenus. Et l'un de nos observateurs personnellement a été victime de ce que nous pouvons appeler bourrage des urnes. Excusez-moi que je l'exprime ainsi, parce que lorsqu'il est allé dans son village pour voter et jouer le rôle d'observateur, et il a découvert qu'on a déjà voté à sa place. C'est-à-dire, le registre ou son nom, ou figure son nom, ou après le vote, il doit décharger, il a constaté que quelqu'un a déchargé à sa place.
C'est
comme ça qu'il a pris la curiosité de vérifier pour les membres de sa famille, puisque c'est dans son village et toutes ses connaissances. Donc, on a voté à leur place. Lorsque il y a tout ce nombre...
Mais est-ce que vous avez observé plusieurs cas comme cela?
Pardon?
Est-ce que vous avez observé plusieurs cas comme celui-là?
Non, pour ce cas-là, c'est précis parce que c'est un de nos observateurs qui a été victime.
D'accord.
Nous avons eu des allégations d'autres cas de bourrage des urnes.
Des allégations documentées.
Auxquelles nous, nos observateurs, n'ont pas personnellement assisté. Parce que lorsque les gens votent à votre place, ça vous devait dire qu'il y a eu bourrage des urnes. Parce que si on signe là-bas, ça veut dire que cette personne-là est censé avoir voté.
C'est ça.
Maintenant, lorsqu'on signe à sa place, donc ça veut dire qu'il y a eu des urnes, des bulletins déjà qui sont dans l'urne pour ce qui concerne ces personnes-là.
C'est ça.
Mais lui, après la discussion, il a voté quand même.
C'est ce qu'il pouvait expliquer. Est-ce que tout ce que vous décrivez là, je veux dire comme, disons, incident, irrégularité, est-ce que tout cela, c'est la question rituelle, est-ce que c'est de nature à remettre en cause les résultats proclamés par la commission électorale et même la validité du scrutin?
Sans abat, je dis oui. Sans hésiter, je dis oui, parce que, comme j'ai dit, nous avons eu beaucoup d'allégations, et ce qui semble nous confirmer ces allégations, c'est que pour la plupart des votes et des bureaux de vote à l'intérieur du pays, dans les clans les plus peuplés, les bureaux de vote ont ouvert avant l'heure indiquée. Lorsque ces bureaux de vote ont ouvert avant, puisque en principe, avant que les bureaux de vote ou le scrutin ne commence, les membres du bureau de vote, du moins le président et son rapporteur, doivent montrer aux électeurs qui sont présents sur les lieux l'urne vide avant de démarrer le scrutin. Mais lorsque les gens viennent et qu'on a ouvert le bureau de vote avant l'heure fixée, ça voudrait dire qu'on a cassé quelque chose. Et donc, ces allégations-là, c'est vrai qu'il n'y a pas de preuve palpable qui puisse être démontrée devant la Cour constitutionnelle et qui va juger la régularité ou non du scrutin. Mais c'est ces allégations-là qui nous font dire qu'il y a eu beaucoup de choses quelque chose qui s'est passé. Alors, au-delà de ça,
oui, pardon, allez-y.
Et bien, ce qui nous paraissait curieux,
oui.
C'est la précipitation avec laquelle les résultats ont été programmés.
J'allais vous poser la question justement, parce que c'est dans un délai record que cela a été fait. C'est la première fois qu'on programme des résultats au Togo, à peine 24 heures après la fermeture du scrutin.
Oui, et c'est curieux. C'est curieux, c'est extraordinaire. Je vous explique.
Ah, mais dans le temps du pouvoir, dans le temps du pouvoir, on s'en félicite surtout.
Non, je vous dis pourquoi on ne doit pas s'en féliciter. Et si on le fait, c'est pas malhonnêteté. Parce que là, on nous dit, il y avait un système qu'on appelle sincère qui permet de faire envoyer les résultats à la CENI et à la CELI. La CENI, c'est le démembrement locaux de la CENI, envoyé par SMS supportable.
Oui, oui.
À la veille du scrutin, la CENI a supprimé cette méthode-là qu'elle-même avait instituée plusieurs années plus tôt.
Oui, oui.
En réalité, pour que les résultats puissent arriver dans un de leurs records, il va falloir qu'il y ait un système informatisé.
Oui, oui.
Et là, aucun système informatisé, on a rempli à la main. Tout a été fait de manière manuelle.
Ah oui, ah oui.
Et depuis plus de 200-300 km, on a convoyé les résultats par avion, par hélicoptère.
Oui, oui.
Et tout ce qui s'est passé durant le séjour, on ne sait pas. Ça, c'est vrai, oui. Que c'est une supposition.
Oui.
Mais le samedi soir, le président de la CENI a annoncé officiellement que les résultats seront publiés lundi à 20h.
Oui.
Oui. Mais c'est à quelques minutes ou à quelques heures
dans la soirée de dimanche,
qu'on informe que les résultats seront publiés quelques heures après, c'est-à-dire à 20h ou à 22h ce dimanche-là.
Oui.
Et figurez-vous, les candidats n'étaient pas informés.
Alors, à quoi attribuez-vous donc ce délai record? Parce que, à vous entendre finalement, cela ne relève pas, je dirais, de la qualité du travail de la commission électorale, ce délai.
Absolument. Bon, ça pouvait donner raison aux candidats qui prétendent que c'est des résultats préfabriqués. Parce qu'en réalité, lorsqu'on dit les résultats seront publiés lundi, et qu'il y a quelques minutes après, un candidat pour dire on vous invite à suivre les résultats.
Oui.
Mais ce n'est pas ça, mais ce n'est pas sérieux. Écoutez, c'est de l'amateurisme.
C'est ce que dit l'opposition,
d'ailleurs. Depuis plusieurs années déjà.
D'accord.
Donc il y a autant d'éléments qui font semer du doute, du doute sur la crédibilité des résultats qui ont été donnés.
Alors c'est un concours virulent. À quoi vont ressembler les lendemains de cette présidentielle? Parce que donc le candidat Agboyome Kodjo, qui s'était donc autoproclamé président élu, qui a introduit donc un recours auprès de la Cour conditionnelle, et puis il y a l'autre grand acteur de la scène politique, Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC et principal parti de l'opposition, qui lui est sorti de cette élection avec seulement 4,35% des voix. Il a d'ailleurs assez rapidement reconnu sa défaite en apportant son soutien à Agboyome Kodjo pour un second tour. Et puis finalement, le parti de Jean-Pierre Fabre, l'ANC, conteste à son tour les résultats annoncés par la commission électorale et parle d'un score fantaisiste attribué au chef de l'État, au président sortant. L'ANC parle d'un score manifestement fabriqué et qui aurait été préparé par la violence et la fraude. Est-ce qu'on est en train d'assister là à un véritable front de la contestation de cette présidentielle? On pourrait parler également de la position, de la détermination de de l'archevêque émérite de Lomé, Monsieur Poudreau. Mais on va y arriver tout à l'heure. Est-ce qu'il faut s'attendre désormais à une contestation, à un contentieux durable?
Oh, nous ne souhaitons pas que ce contentieux soit si durable que ça.
Oui.
Et les acteurs politiques, tous les acteurs qui sont impliqués, surtout la Cour constitutionnelle, arrivent à dire droit. Parce que là, il va falloir voir. Heureusement que la Cour constitutionnelle, qui avait quelques observateurs sur le terrain également, pouvait relever certaines irrégularités.
Qu'attendez-vous de la Cour constitutionnelle? Célestin Agogouin, qu'attendez-vous aujourd'hui de la Cour constitutionnelle?
Il faut que la Cour constitutionnelle prenne ses responsabilités et annule le scrutin dans certains bureaux de vote ou dans la plupart des bureaux de vote qui sont situés à l'extrême nord du pays et dans certains villages reculés où les allégations de fraude ont été relevées. Et je crois que avec quelques preuves que le candidat Agoumé et éventuellement les autres vont faire valoir.
Oui.
Malheureusement, la Cour constitutionnelle ne s'en tient qu'aux preuves matérielles qui lui sont apportées dans leur bureau.
C'est ça.
Alors qu'il y a des choses qui sont passées sur le terrain, qui sont passées inaperçues. Il y a des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Oui. Ce n'est pas nécessairement fiable. Mais on peut faire des enquêtes.
Ce que vous dites, c'est qu'en fait, l'opposition, enfin, Guillaume et Kodjo, qui conteste le résultat et qui introduit un recours, n'est pas en mesure d'apporter aujourd'hui, je dirais, des preuves documentées, matérielles, physiques de sa contestation. C'est ce que vous voulez dire?
Non, moi, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Je ne suis pas à la place ou un porte-parole.
Mais
moi, je dis ce qui est réel.
Non, mais selon vous, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est possible de produire devant la Cour constitutionnelle des éléments de preuve physique, concrets, pour contester cette élection?
Oui, on peut produire quelques éléments et concrets, mais au-delà de cela, il y a des preuves qu'on ne peut pas produire. Il y a des preuves qu'on ne pourra pas produire, ou du moins, parce qu'il y a des choses qui sont passées inaperçues dans les lieux les plus reculés, par exemple, lorsqu'on a cherché dans certains bureaux de vote des délégués de l'opposition, je ne sais pas comment ils peuvent être en mesure. Parce que le fait même d'avoir chassé doit constituer un élément fondamental pour annuler le scrutin dans ces localités-là.
D'accord.
Parce que lorsqu'on chasse, mais il faut qu'on sanctionne, il faut que ça soit sanctionné. Et la sanction doit être l'annulité. Parce que si le débat ou les choses ne sont pas déroulées de manière contradictoire, pour que tous les candidats puissent avoir les procès-verbaux issus des bureaux de vote, et je crois qu'avec cette analyse ou cette proposition que les candidats ont fait même avec le scrutin et qui a été confirmée par l'ambassade des États-Unis au Togo, comme quoi il faut faire et proclamer les résultats bureau de vote par bureau de vote, je crois qu'il faut procéder ainsi. Ce n'est pas, ça ne pourrait pas donner la crédibilité à tout ça.
Le pouvoir togolais a rejeté cette demande des États-Unis. Et d'ailleurs, le ministre des Droits de l'Homme, ministre togolais des Droits de l'Homme, Christian Trimoy, a dit, vous allez le confirmer ou l'infirmer, que le fait de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote n'est pas inscrit dans la loi électorale togolaise.
Oui, exact. Ce n'est pas inscrit dans la loi électorale togolaise. Mais ce n'est pas interdit non plus. Ce n'est pas illégal.
D'accord.
Ce n'est pas anticonstitutionnel.
D'accord.
Je vous explique. Parce que la loi ne le dit pas, mais c'est une mesure pratique qu'on peut prendre lorsque on veut lever toute polémique.
Oui.
Toute polémique. Lorsque pas souci de transparence. Parce que la loi dit que la CELI et le démembrement, les CELI ou les démembrements de la Commission électorale nationale indépendante, peuvent être à la compilation des résultats. En quoi consiste la compilation? La compilation consiste à relever tous les résultats de tous les bureaux de vote et à en faire la somme.
C'est ça.
Si on relève tous les résultats des bureaux de vote avant de faire la somme, ça veut dire qu'on a tous les résultats de tous les bureaux de vote qu'on peut donner.
D'accord.
Qu'on peut citer. Bureau de vote numéro 1, ceci, bureau de vote numéro 1, voilà.
Maintenant,
on fait la somme.
Je ne vois pas
en quoi c'est illégal.
Vous allez pouvoir reprendre votre propos. On va marquer une pause. Cela s'impose à nous, à cette étape de l'émission. On va marquer une pause. On revient juste après pour reprendre donc le cours de ce sujet, de ce débat sur le lendemain de la présidentielle au Togo. On écoutera d'ailleurs le commentaire de notre confrère Yaya Baldé, qui est dans le studio de BBC Afrique à Dakar. Ne partez pas. On se retrouve donc juste après cette courte pause. À tout de suite.
Le débat Africa Radio BBC Afrique, présenté par Francis Laloupo. Le débat
avec notre grand témoin invité au téléphone depuis Lomé au Togo, Célestin Kokouvi Abogan, président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, la LTDH. Yaya Baldé, notre confrère, est également invité dans cette édition, journaliste et écrivain guinéen. Avant de reprendre l'échange avec notre grand témoin, Célestin Abogan, je me tourne vers vous. Yaya Baldé, vous êtes à Dakar, dans les studios de BBC Afrique. Vous avez écouté donc les propos de notre grand témoin. Voilà donc des lendemains compliqués de nouveau hein, pour une présidentielle au Togo. On a l'impression que les contentieux électoraux sont devenus une tradition au Togo.
Absolument. Alors, en tout cas, à écouter cette description assez triste de la situation électorale et post-électorale dans ce pays, nous voyons que nous sommes aujourd'hui dans ce que nous pouvons appeler une crise post-électorale avec cette contestation de l'opposition de ces élections. Mais, vous savez... moi, je me dis, au regard de l'histoire, de la trajectoire politique de ce pays, ce n'est pas du tout une surprise, parce que une élection, quand même, c'est à plusieurs étapes, c'est avant, pendant et après les élections. Mais tous les observateurs avertis, qui suivaient de très près cette actualité politique dans ce pays, savaient que les conditions d'une élection transparente n'étaient pas réunies pour... ces élections-là. Donc, les gens sont allés, mais c'est tout en, en tout cas, si vous voulez, estimant que les résultats allaient passer de cette façon-là. Donc, ce n'est pas du tout une surprise, parce que, voilà, les conditions du tout n'étaient pas réunies pour des élections transparentes. Mais tout cela, moi, m'inspire, ça me rappelle un peu l'ouvrage maître de Bertrand Badier, l'État a importé en Afrique de l'occidentalisation de l'ordre politique en Afrique, c'est notre rapport au pouvoir en Afrique. Je pense qu'il va falloir redéfinir ce rapport au pouvoir en Afrique. Il va falloir réellement questionner notre rapport avec le pouvoir, parce qu'on ne peut pas plusieurs années continuer à diriger un pays et le plonger à chaque fois dans des situations en tout cas conflictuelles de cette nature-là pendant que nous sommes dans une région ouest-africaine, en tout cas dont la situation sécuritaire reste assez délétère, donc amener des situations en tout cas électorales comme ça, je pense que ce n'est pas quelque chose de responsable dans notre contexte actuel.
Merci beaucoup Yaya Baldé. Célestin Kokouvi à Bogan. Alors ce jeudi, hein, vous l'aviez évoqué, les États-Unis ont demandé à la Commission électorale du Togo de publier donc les feuilles de décompte indiquant le nombre de votes obtenus bureau de vote par bureau de vote. Une demande donc qui a été rejetée en bloc par les autorités togolaises. Comment vous interprétez cette demande américaine? Est-ce une marque de défiance des États-Unis à l'égard de ce scrutin, très clairement?
Je crois que c'est une observation ou une demande faite à l'issue d'une observation assez pointueuse ou d'une observation d'un suivi et de processus électoral, puisque l'ambassade des États-Unis au Togo a déployé ses propres observateurs sur le terrain. Et je crois qu'il en a reçu le rapport. Et donc c'est sur la base de cela qu'elle fait cette proposition aux autorités qui ont opposé un refus catégorique. Et cette demande-là avait été soumise par... la plupart des candidats aux chancelleries avant même le scrutin.
Oui.
Malheureusement, le pouvoir qui ne veut pas que la transparence puisse prévaloir à l'issue de ce scrutin-là, mais je ne vois pas ce que ça coûte.
Si
on n'a rien à cacher.
Avant de poursuivre, est-ce que vous ne craignez pas que le pouvoir, comment dire, vous accuse, la TDH, de prendre à votre compte les arguments de l'opposition?
Nous n'avons pas pris à notre compte les arguments de l'opposition. Nous sommes en train de faire une analyse logique de la situation. Lorsque deux partis se disputent, deux partis se battent, il va falloir, on dit chez nous, qu'on ne brûle pas la case du voleur ou du menteur. La case du menteur, on ne brûle pas, mais on la dissèque. Il faut opérer pour savoir réellement ce qui... Je ne vois pas les deux parties, la partie qui serait lésée,
c'est ça.
Les deux parties, l'opposition ou le pouvoir, le mal que ça fait pour l'un ou pour l'une ou l'autre des parties, à ce qu'on fasse un décompte des voix, ou du moins, on publie les résultats, bureau de vote, pas bureau de vote.
C'est ça.
Autrement dit, on dira... également aux États-Unis, ou à l'ambassade des États-Unis, hein, d'avoir pris à son propre compte les réclamations de... Nous avons, avant même le scrutin, dit que les conditions n'étaient pas réunies.
D'accord.
Pour le scrutin. Maintenant, lorsqu'une partie fait une demande, nous trouvons logique, légitime.
D'accord.
Mais à quoi bon, pour éviter une crise qui perdure.
Hey. Donc, alors, il vaut mieux... À propos de la crise, d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes vendredi, au moment où nous enregistrons, nous avons donc appris qu'il y a eu un déploiement de forces de sécurité devant les domiciles de Agbeyome Kodjo, donc arrivé en seconde position, officiellement, en tout cas si on en croit les résultats provisoires, et aussi devant le domicile de l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Poudjo. De quoi ce déploiement des forces de sécurité est-il le symptôme aujourd'hui au Togo, à Lomé?
Oui, c'était pareil le soir du scrutin.
Oui.
Et je me suis rendu personnellement chez Monseigneur Poudjo, j'ai constaté qu'il y avait des militaires qui étaient positionnés à côté de sa maison.
Du scrutin,
il en est de même chez du candidat à Kolo. Mais aujourd'hui, c'est pareil. Et moi, je considère ça comme une intimidation. C'est pour intimider les populations.
Une manifestation était prévue aujourd'hui, qui a été interdite.
Justement, il y avait une manifestation qui était prévue. Logiquement, je crois que cette manifestation, naturellement, devrait être interdit, parce qu'il y a eu des manifestations qui ont été interdites sans qu'il y ait aucune raison, aucun argument valable.
Oui.
Mais cette manifestation, je crois que en toute logique, ça doit être interdit, parce que les conditions prévues qui sont, entre autres, l'information préalable à l'autorité n'ont pas été faites.
C'est ça.
Et si tel est le cas, nous sommes d'accord que l'interdiction, elle est légale. Il y a eu des manifestations qui ont été interdites de manière illégale. Mais à quoi? À plus forte raison, cette interdiction qui n'a pas respecté les formes.
D'accord.
Cette manifestation dont l'organisation n'a pas respecté les formes.
On a parlé de la demande tout à l'heure. Oui. On a parlé de la demande des États-Unis tout à l'heure. En revanche, la mission d'observation électorale de la CEDEAO a estimé que le scrutin donc du 22 février dernier, la présidentielle, s'est déroulé dans la paix et conformément à la loi électorale en vigueur au Togo. De cette manière, la CEDEAO valide cette élection. Est-ce que cette position constitue, je dirais, une validation définitive du scrutin par la CEDEAO, au moins dans le contexte sous-régional?
Mais écoutez, la CEDEAO a envoyé combien d'observateurs et quand?
Ben,
ils sont allés où?
Vous allez
ils
nous
sont,
le
ils
dire.
Ont vu quoi?
Dites-le nous.
C'est la même chanson. La CEDEAO a envoyé moins d'une centaine d'observateurs au Togo et l'Union européenne.
D'accord.
Et c'est la même chanson qu'ils ont toujours attonnée dans ce pays, ils ont exécuté dans ce pays depuis 2005. Même en 2005, cette élection qui a été décriée dans tout le monde entier, mais l'Union africaine a validé cette élection-là.
Oui.
2005, où le chef de l'État est arrivé au pouvoir dans le sang, où on a organisé une élection vraiment que le monde a qualifié d'une élection extrêmement frauduleuse.
Mmh.
La CEDEAO a validé. Donc, l'Union européenne même. Donc aujourd'hui, leur refrain, nous en sommes habitués. À part quelques incidents qui ne sont pas de nature à attacher l'illégalité du scrutin. Ils sont venus presque à la veille du scrutin.
Mmh.
Et ils sont restés à Lomé, je ne sais pas combien ils sont allés à l'intérieur et à quel niveau ils sont allés. Et le juste le lendemain, ils publient le rapport. Nous avons fait une observation, jusqu'alors nous n'avons pas encore publié de rapport. Ce n'est pas que nous avons les éléments, mais un rapport pareil, mais il faut mettre du temps.
C'est ça.
Pour faire un rapport, c'est vieux. Ils viennent, ils restent dans leur hôtel et ils vont dans quelques centres ou bureaux de vote et après ils viennent dire que les élections sont déroulées de manière... écoutez, on les connaît, ces messieurs-là.
Une dernière question. Céleste Apouvi Agbogan. Quel regard vous portez sur la détermination de l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Poudjo, qui promet de ne pas laisser Foya Simbé voler une fois encore la victoire du peuple, c'est une citation, et qui a appelé les Togolais, je cite toujours, à sortir massivement dans les rues pour arracher la victoire? C'est rare de voir un archevêque s'impliquer aussi fortement dans une élection. Il faut rappeler aux auditeurs qu'il a été le principe, enfin un soutien, en tout cas un soutien déterminé à la candidature de Agbeyome Kodjo.
Oui, vous savez, Monseigneur Kodjo a été appelé ou sollicité depuis 92 lors de la conférence nationale pour diriger cette conférence-là. Et il a été également sollicité pour présider le Parlement de la transition. Donc il est impliqué dans la situation politique ou dans la crise politique depuis plusieurs années, depuis l'avènement même du processus démocratique dans notre pays. Et donc il est suffisamment instruit, il a été victime ou il a été témoin de cette élection-là, de cette mascarade électorale. Et donc je crois que après avoir suffisamment encaissé cette bévue-là, je crois que c'est ce qui justifie sa détermination. Il voudrait, à son âge, il voudrait au moins avoir cette bonne nouvelle de l'alternance pour un pays où, vous comprenez, pour un chef d'État qui passe son quatrième mandat et qui, avant d'arriver, d'accéder au pouvoir premier, n'a pas eu 72%, pour un deuxième mandat, moins de 60%, troisième mandat, moins de 60%, et quatrième mandat, on nous dit 72,36%. C'est courrier pour un peuple. Mais il faut être un peuple mouton pour élire quelqu'un qui a déjà fait 15 ans à 72%. Et mon peuple, le peuple togolais n'est pas un peuple mouton, nous sommes désolés.
14 points de plus que son précédent score de 2015.
Cette année où il a été plus décrié. Vous convenez avec nous, logiquement, tout être pensant ne pourra admettre un tel chiffre aisément.
Merci. Merci beaucoup.
Nous sommes à l'heure d'une technologie poussée, nous sommes au 21e siècle de toute façon.
Merci. Un dernier commentaire, Yaya Baldé, avant de passer à un deuxième sujet.
Oui, justement. Alors, je pense que nous voyons de plus en plus l'irruption des religieux au niveau des élections en Afrique. Souvenez-vous, au Congo, en République démocratique du Congo, l'Église également, qui était assez impliquée à ces élections-là. Moi, je considère que la société civile... dont les religieux, en tout cas, constituent un élément important, a une responsabilité dans, en tout cas, ces processus démocratiques en Afrique. Et c'est tout à fait normal, à mon avis, mais il serait plus intéressant que cette détermination de cet homme de Dieu, de l'Église, puisse le faire, en tout cas, avant les élections. Je crois qu'aujourd'hui, il appartient au peuple togolais, à toutes les parties prenantes, à tous les acteurs aujourd'hui de pouvoir prendre les responsabilités parce que c'est leur pays avant tout. Donc, il ne faut pas attendre la CEDEAO ou les États-Unis ou je ne sais pas quel autre pays.
Merci bien, Yaya Baldé. Un deuxième sujet dans cette édition tout de suite.
Le débat Africa Radio, BBC Afrique.
Avec notre grand témoin invité, Célestin Kokouvi-Agbogan, président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, et Yaya Baldé, notre confrère invité, journaliste et écrivain. Et nous allons parler de la Guinée-Bissau. Vous êtes Guinéen, Yaya Baldé, mais Guinée-Conakry, il faut le préciser.
Oui, nous sommes deux pays voisins.
Voilà, Guinée-Bissau, donc, avec la contestable investiture de Oumaro Sissoko Embalo. C'est dans un hôtel de luxe de Bissau et en l'absence notable du président du Parlement, que le candidat à la présidentielle Oumaru Sissoko Embalo a organisé ce jeudi une cérémonie de prestation de serment et son investiture à la fonction présidentielle, alors même que le contentieux consécutif à la présidentielle de fin décembre 2019 n'est pas encore soldé. Rappelons brièvement que Oumaru Sissoko Embalo a été déclaré vainqueur de la présidentielle du 29 décembre dernier par la Commission nationale des élections, un résultat donc contesté par son rival Domingo Simoes Pereira, qui a introduit un recours auprès de la Cour suprême de justice, seule habilité à proclamer le résultat définitif d'une élection. La Cour suprême a donc demandé à la Commission une vérification, plus précisément un apurement des procès-verbaux, et à plusieurs reprises, la commission électorale a confirmé le même résultat, démarche jugée insuffisante jusqu'à présent par la Cour suprême. Première question pour vous, Célestin Kokouvi-Agbogan, comment vous jugez, dans ce contexte, l'initiative prise ce jeudi par Oumaru Sissoko Embalo de prêter serment alors que le contentieux n'est pas réglé et en faisant fi de l'arrêt de la Cour suprême?
Oui, je crois que c'est une anomalie. Une anomalie politico-judiciaire, d'autant plus que la loi exige que les résultats définitifs soient publiés par la Cour suprême d'abord, surtout que l'autre a exercé des recours, et il va falloir qu'on attende que le contentieux soit définitivement épuisé et vidé. Malheureusement, lorsqu'on fait une investiture, ça veut dire qu'on défie la Cour suprême, ou du moins on crée la crise. La crise s'accentue de toute façon. Parce que, et puis, bon, je crois que ce qui est surtout à l'origine de cette situation également, et qui ne me justifie pas vraiment, c'est cette, je dirais, cet antagonisme entre la commission électorale et puis la comité électorale et puis la Cour suprême, où la commission électorale n'est pas d'accord avec la Cour suprême et vice-versa.
Oui, oui.
Et pour une élection qui s'est déroulée depuis le 29 décembre, nous nous demandons pourquoi cette crise-là... peut-être que Oumarou Sissoko a voulu définitivement faire à cette crise en organisant sa cérémonie d'investiture, mais ça ne résout pas le problème. Je crois qu'il va falloir que cette suprême la puisse vraiment dire le droit. Parce que vous voyez, nos problèmes en Afrique, c'est qu'on n'a pas d'institution forte. On n'a pas d'institution qui puisse transcender les intérêts partisans. Et c'est ce qui fait que si nous avons une Cour suprême crédible, je crois que cette situation-là pourrait connaître un dénouement heureux.
C'est une question
de crédibilité de nos institutions qui se posent.
En tout cas, cette singulière cérémonie d'investiture s'est déroulée donc ce jeudi devant près de 600 personnes, parmi lesquelles le chef d'état-major de l'armée, les députés et cadres du parti de Sissoko Embalo, le MADEM G15 et également des représentants de formations alliées, une démarche jugée illégale par le gouvernement et aussi par le parti historique PAIGC majoritaire à l'Assemblée. Le Premier ministre Aristide Gomes a qualifié cette initiative de tentative de coup d'État. Yaya Baldé, est-ce que cette investiture un peu particulière, c'est le moins qu'on puisse dire, ne provoque pas de fait une crise institutionnelle aujourd'hui en Guinée-Bissau ?
Absolument, nous sommes dans une crise institutionnelle dans ce pays maintenant.
Parce qu'au moment où nous parlons, Sissoko Embalo est installé à la présidence. Et d'ailleurs, avec la complicité, l'aimable complicité de son prédécesseur, Mario Vaz.
Exactement. En tout cas, on a vu les images qui ont été envoyées, cette passation de pouvoir entre les deux. Et je pense que aujourd'hui, nous sommes en tout cas dans cette situation-là au niveau du pays, mais si vous voyez tout cela, comment ça a été orchestré en tout cas hier surtout, moi je me dis il y a des questions à se poser, parce que dans une élection, il y a plusieurs acteurs, comme on le rappelait tout à l'heure au Togo, pour légitimer en tout cas une élection. Rappelez-vous en Côte d'Ivoire en 2010, oui. Après l'élection du président Ouattara, il y avait trois institutions importantes pour certifier et valider cette élection-là. Il y avait la CEI, la Commission électorale indépendante, il y avait l'ONUSI, mais aussi le Conseil constitutionnel dirigé à l'époque par Paul Yaoundé. Donc les deux institutions, à savoir la CEI et l'ONUSI, avaient proclamé M. Ouattara vainqueur de ces élections, mais seulement le Conseil constitutionnel qui avait invalidé les résultats. Mais en tout cas, au finish, on a vu que le président Ouattara, en tout cas, sa victoire a été acceptée et validée. Mais dans le cas actuel aujourd'hui, en Guinée-Bissau, qui est vraiment un petit pays de par sa superficie, mais avec les enjeux sous-régionaux assez importants, les enjeux géopolitiques, sécuritaires, tout cela. Donc aujourd'hui, nous voyons qu'il y a deux acteurs à travers la commission électorale, mais aussi la Cour suprême. Oui. Mais je crois que la CEDEAO pourrait constituer le troisième acteur assez décisif pour pouvoir trancher ou légitimer cette élection-là.
Où est passé l'État bissau-guinéen aujourd'hui ? Parce que quelles peuvent être les relations de celui qui se considère désormais comme le président de Guinée-Bissau avec les institutions de son pays ?
C'est un peu compliqué parce que celui-là, il est estimé être déjà investi. Il est dans ses fonctions. C'est un général aussi.
Non reconnu par la Cour suprême, non reconnu par le président du Parlement, par exemple.
Oui, et c'est là d'ailleurs toute la complexité de cette élection en Guinée-Bissau, parce que c'est un régime parlementaire qui est là, donc de ce qui explique l'absence du président de l'Assemblée nationale, qui a aussi remporté des élections législatives, le PAIGC qui a remporté les élections législatives, mais ce qui est surprenant et ce qui est intéressant dans ça, c'est que ce nouveau président, assez jeune aussi, peut-être il a réussi à travers le jeu des alliances,
ce nouveau président, à fédérer. Jusqu'à présent, auto-investi.
Oui, auto-investi, c'est ça. Mais à travers aujourd'hui, sa capacité à nouer des alliances autour de lui, avant même d'aller aux élections, après, même parce qu'il peut aller aujourd'hui entrer en négociation, engager des détractations et des négociations avec des députés élus, en tout cas sur la bannière du PAIGC. Donc, et aussi à l'extérieur, je pense qu'il a fait des choix assez stratégiques. L'axe Bissau-Dakar, on l'a vu avec des
choix
d'État.
Qui aboutissent quand même à ce que Aristide Gomez, qui jusqu'à nouvel ordre est le premier ministre reconnu par la communauté internationale, a qualifié de tentative de coup d'État.
Oui, c'est ça, mais bon, nous allons voir l'issue de tout cela et quelle sera la position assez déterminante de la CEDEAO dans tout cela.
Sans transition, nous allons parler de l'épidémie du nouveau coronavirus. Un cas de contamination au nouveau coronavirus, le Covid-19, dit-on désormais, a été donc confirmé ce jeudi au Nigeria. Et selon le ministère nigérien de la Santé, le patient est un ressortissant italien travaillant au Nigeria et revenu à Lagos depuis la ville italienne de Milan le 25 février dernier. Il s'agit du premier cas recensé en Afrique subsaharienne. Deux autres cas ont été recensés récemment en Égypte et en Algérie. Il faut préciser qu'aucun décès n'a jusqu'à présent été signalé sur le continent. Célestin Kokouvi-Agbogan, c'est vrai que jusqu'à présent, le continent africain semble plutôt épargné, car c'est là que l'on relève le plus faible nombre de contaminations. Comment vous expliquez cette situation quand on sait que la densité, quand on connaît la densité des relations des pays africains avec la Chine?
Oui, je crois que c'est un scandale qui est en vue, ou du moins au départ, les pays africains croyaient avoir pris toutes les dispositions pour limiter ou éviter carrément la propagation, ou du moins de cette maladie, de ce mal-là. Et ce qui est curieux, c'est que même les Occidentaux, jusqu'alors, n'ont pas trouvé un remède efficace pour faire face à ce mal-là. Et le coronavirus est en train de gagner du terrain. Et malheureusement, l'Afrique subsaharienne est atteinte. Et nous demandons...
Mais quand vous dites cela, qu'il est atteint, pour l'instant, c'est le premier cas qui a été donc recensé au Nigeria. Est-ce que vous pensez que le système de recensement des personnes potentiellement contaminées, que ce système n'est pas fiable en Afrique subsaharienne, ou alors le continent est réellement préservé, quoi?
Non, je crois que le système pourrait être fiable, mais de toutes les façons... il peut y avoir des cas rebelles, excusez-moi le terme, mais je crois il va falloir, c'est quand même une occasion pour les États africains de redoubler de vigilance en ce qui concerne les contrôles qui sont faits pratiquement dans tous les pays au niveau de l'aéroport, mais il y a des entrées qui ne sont pas contrôlées, peut-être que c'est ça qui peut entraîner de ces cas-là. Avec ce premier cas-là, je crois que c'est une alerte. Ça doit réveiller davantage, mobiliser davantage les ressources sur le plan médical pour que ce mal-là soit vraiment mis hors de l'Afrique. Et pourquoi pas annuler, parce que annihiler au niveau de tous les États, parce que là, ça prend du terrain et c'est l'inquiétude généralisée.
Est-ce que vous pensez que, je vous pose la même question au fond, que l'Afrique jusqu'à présent est épargnée, ou alors il y a des cas, disons, non identifiés? Yaya Baldé, on ne vous entend pas. On ne vous entend plus, c'est curieux.
Allô?
Oui, voilà, c'est mieux là.
Ok, merci. Alors, je disais que moi, je suis vraiment assez sceptique. Je crains beaucoup parce que...
Vous êtes sceptique.
Oui, assez sceptique parce que nous avons généralement en Afrique des systèmes sanitaires assez défaillants. J'essaie de quoi je parle parce que mon pays, la Guinée, vient de sortir d'une épidémie d'Ebola. On a beaucoup souffert avec cette maladie. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut beaucoup plus miser sur la prévention que sur d'autres approches parce que nous savons que
est-ce que les systèmes de santé aujourd'hui en Afrique sont, disons, préparés pour affronter, pour mener ce combat, parce que c'est un combat mondial aujourd'hui. Hein. On a parlé du Nigeria tout à l'heure. Bon, quand on a fait le bilan du système de santé au Nigeria, ce système est aujourd'hui reconnu comme défaillant.
Généralement, dans l'ensemble, oui, ce sont des systèmes assez défaillants. Et c'est pourquoi je disais qu'aujourd'hui, l'accent doit être beaucoup plus mis sur la prévention, la vigilance, parce que nous n'avons pas toutes les ressources humaines, nous n'avons pas le matériel, la qualification nécessaire, toute la logistique que cela demande. Nous avons vu en Chine, un pays quand même, avec tous les moyens qu'ils ont, les moyens humains, les moyens matériels, même eux, ils sont éprouvés par cette situation-là. Si nous, États africains très pauvres, aujourd'hui on se laisse en tout cas faire par cette maladie-là, nous aurons beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis à freiner cette propagation. Merci. Donc il va falloir beaucoup veiller sur la vigilance, veiller sur la prévention.
Merci beaucoup. Alors, le temps passe très vite, hein, je ne voudrais pas évidemment conclure ce sujet sans évoquer avec vous, Célestin Kokouvi-Agbogan, la situation des ressortissants africains en Chine, surtout le cas des étudiants confinés depuis janvier dernier, confinés donc sur place en Chine, et qui ne peuvent toujours pas bénéficier d'un rapatriement de la part de leurs États. Plusieurs États ont renoncé à rapatrier leurs ressortissants.
Je crois que ce n'est pas là la solution. Pour tout pouvoir qui aime ou qui sait protéger ses ressortissants, même au-delà des frontières, doit prendre toutes les discussions. Parce que là, le fait de les laisser confiner, pas des lieux sûrs, je ne crois pas. Oui. Ça ne résout pas le problème. Il faudrait mieux les faire rapatrier, prendre des mesures pour que la maladie ne soit pas propagée au retour du pays. Je crois que ce serait mieux. Parce qu'on ne le fait pas, c'est que on fuit ses responsabilités et le sens du patriotisme ou le respect des valeurs et républicaines ne sont pas réels, ne sont pas effectifs de la part des africains qui omettent de faire rapatrier les citoyens. Oui. Alors que ce n'est pas comme ça lorsqu'il s'agit d'un Européen. Un seul
surtout que la plupart des pays évoquent en plus essentiellement des raisons matérielles, financières.
Hein. Écoutez, on sait comment ça se passe. Oui. Ils ont des moyens financiers pour organise des élections sur fonds propres et ils ont des moyens financiers pour fêter et pour faire des dépenses qui ne rentrent pas dans le cadre de la protection ou dans les intérêts, dans le cadre des intérêts de la société qui dirige, mais ils sont prêts à trouver autre des alibis pour refuser ce qui est de leur responsabilité. Merci. Je crois que c'est un faux problème quand ils disent qu'ils n'ont pas les moyens.
Ils
ne veulent pas faire marque de volonté politique.
Merci beaucoup. Et Abaldé, juste un mot sur ce sujet.
Je pense que
je sens que vous avez quelque chose à dire.
Effectivement. Alors, je crois que c'est un peu compliqué. Il faut comprendre aussi le choix ou la prudence des présidents africains, parce que certains États ont l'habitude de rapatrier leurs compatriotes quand leurs concitoyens quand ils sont dans des situations difficiles. À mon avis, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que ces étudiants confinés puissent bénéficier d'une solidarité internationale. Mais pour cela, il faut travailler au-delà des États, associer peut-être l'OMS, trouver une expertise internationale, essayer de trouver en tout cas l'alchimie qu'il faut pour essayer de sortir de cette situation-là.
Merci beaucoup. Le moment est venu d'écouter les messages de nos auditeurs, messages postés sur notre page Facebook, recueillis et livrés à présent par Didier Ladislas Lando.
Le débat Africa Radio, BBC Afrique.
Bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Ambiance post-électorale au Togo, Charles Bazema demande aux Togolais de ne pas sortir pour une quelconque manifestation, car si l'opposition voulait vraiment battre le président Faure dans les urnes, elle aurait dû s'unir au lieu d'aller à l'élection en rang dispersé. Guinée-Bissau, Imran Diallo se demande si les interminables contestations de la victoire de Mbalo Sissoko ne sont pas le fruit de manigances de pays tiers. Pour archiduc Théodore de N'Djamena, Domingo Chimoche Pereira doit se consoler en sachant que les victoires sont faites pour les perdants qui apprennent de leur échec. Sur le coronavirus, notre internaute de N'Djamena estime que l'Afrique n'est pas à l'abri de ce virus. Il invite donc à la prudence. Merci à tous nos fidèles auditeurs. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/le débat BBC Afrique-Africa Radio et sur Twitter à @débat BBC Africa. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Bon week-end à vous, Didier Nadissas-Lando. Merci beaucoup. Célestin Kokouvia-Bogan, c'est la tradition de cette émission. Vous allez conclure cette émission en une conclusion générale, peut-être en vous inspirant des messages de nos auditeurs sur la page Facebook. Un auditeur qui disait notamment, qui évoquait la division de l'opposition togolaise.
Oui, je crois que c'est un fait réel, la division de l'opposition togolaise. Mais au-delà de cela, il faut quand même une volonté d'organiser des élections crédibles et transparentes. Ça aussi a manqué. Et voilà, les responsabilités sont partagées. Et l'opposition voulait faire un front unique ou une action unique. Je crois que le débat serait autre et le résultat également en serait un autre.
Merci beaucoup, Célestin Kokouvia-Bogan. Merci d'avoir été notre invité dans cette édition de débat BBC Afrique, Africa Radio. Célestin Kokouvia-Bogan, président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, la LTDH. Merci à vous également, Yaya Baldé. Vous étiez dans le studio BBC Afrique à Dakar, journaliste, écrivain, auteur de Une République en quête de citoyens et co-auteur d'un ouvrage collectif intitulé La Guinée, que nous voulons, une contribution citoyenne au débat public national. C'est aux éditions Eddy Livre. L'émission a été réalisée à Paris par Hugo Vallière. La régie technique assurée à Dakar par Patrick Lawson. Chargé de production Didier Ladislas Lando. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs africaradio.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de débat BBC Afrique, Africa Radio. Je pense que Liliane sera de retour. Liliane Niacha sera de retour la semaine prochaine. C'est promis en tout cas. D'ici là, portez-vous bien et restez à l'écoute de nos radios partenaires. Au revoir et bon week-end.